Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. Le Vatican fait un pas de plus vers la transparence financière et a adopté ce lundi un code unique pour les contrats et les appels d'offres. Le motu proprio vient d'être publié avec un objectif, permettre une meilleure gestion des ressources et réduire les risques de corruption. Les explications d'Olivier Bonnel.
Ce texte est le résultat de 4 années de travail de différents organismes du Vatican et servira désormais de référence dans le petit État. Intitulé « Normes sur la transparence, le contrôle et la concurrence des marchés publics du Saint-Siège et de la Cité du Vatican », ce code s'étend désormais à tous les organismes du Saint-Siège qui jusqu'à présent ne disposaient pas de leur propre législation en matière de contrats et de marchés. La diligence du bon père de famille, écrit le pape dans le motu proprio, est un principe général de respect maximal sur la base duquel tous les administrateurs sont tenus de concevoir leurs fonctions. François qui souligne la possibilité de faire des économies décisives dans la gestion des biens publics où le besoin d'une administration fidèle et honnête est encore plus ressenti et urgent. Ce nouveau code insiste sur l'éthique qui doit désormais prévaloir dans l'orientation des choix économiques et des interlocuteurs, se basant notamment sur le respect de la doctrine sociale de l'Église, l'autonomie administrative et la subsidiarité dans les choix de gestion de l'administration. Des mesures sont ainsi prises contre les conflits d'intérêts, la concurrence illégale et la corruption. Ces nouvelles normes montrent une normalisation des standards du Vatican selon les critères internationaux en matière de transparence financière. Pour le recteur de l'Université pontificale du Latran et professeur de droit international, Vincenzo Buonomo, ces nouvelles règles rappellent la redécouverte de l'importance et l'urgence d'une meilleure gestion des ressources.
Olivier Bonnel. Des centaines de vierges consacrées du monde entier auraient dû se retrouver à Rome aujourd'hui pour célébrer le 50e anniversaire de la promulgation du nouveau rite de leur consécration. Un rassemblement qui a été annulé en raison de la pandémie, mais le pape François a tenu à adresser un message aux vierges consacrées. Il salue ces femmes réservées à Dieu, mais ancrées dans la société. Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.vaticannews.va. Les Russes appelés à voter sur un changement de leur constitution le 1er juillet. Le référendum d'adoption de la réforme constitutionnelle aurait dû se tenir en avril, mais il a été décalé en raison de la crise sanitaire. Son adoption permettrait à Vladimir Poutine de réaliser 2 mandats supplémentaires à partir de 2024. À 67 ans, Vladimir Poutine effectue actuellement son 4e mandat de président, entrecoupé d'un mandat de son bras droit, Dmitri Medvedev. En Arménie, la crise s'accentue dans les hôpitaux qui croulent sous les patients atteints du nouveau coronavirus. La semaine dernière, le Premier ministre Nicole Pachinian estimait que la situation était très grave dans ce petit pays du Caucase. Et aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé à son tour être atteint par la maladie, ainsi que toute sa famille. En Malaisie, les travailleurs migrants, vivant souvent dans une grande promiscuité, attisent le ressentiment d'un pays sous confinement depuis le 18 mars dernier. Après une série d'arrestations de masse des travailleurs sans papiers, des centres de détention de plus en plus peuplés, où 3 foyers de l'épidémie ont été déclarés, la Malaisie songe désormais à expulser ces travailleurs migrants dans leur pays d'origine, et avec parfois l'aide de leur gouvernement. Les explications de notre correspondante sur place, Gabrielle Maréchaux.
Aidez-nous à expulser les travailleurs sans papiers venant de vos pays. Voici le message qu'a envoyé la Malaisie à plusieurs pays d'Asie du Sud, alors que les frontières sont encore fermées, que la pandémie n'est toujours pas sous contrôle et que 3 centres de détention sont devenus des clusters, la Malaisie persiste dans sa politique répressive. Depuis 1 mois, près de 2000 travailleurs migrants ont déjà été arrêtés et près de 400 ont ensuite été déclarés positifs au coronavirus, mais dès cette semaine, certains seront expulsés vers leur pays. Près de 4800 Indonésiens commenceront ainsi à partir à condition, assure leur pays, qu'ils soient testés négatifs au Covid-19. Népalais et Bangladesh suivront ensuite avec la coopération de leur pays. Les autres nations n'ont pour l'instant pas encore exprimé leur position. La situation de la Birmanie risque notamment de poser question suite à un précédent. Mi-mai, 400 migrants avaient déjà été rapatriés à Rangoon pour faire plus de place dans les centres de détention, assure un diplomate birman. Et de retour au pays, 5 ont été testés positifs au coronavirus. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
C'est une première depuis 30 ans à Hong Kong. La veillée annuelle en souvenir de la répression de Tiananmen est interdite par les autorités. Elle aurait dû se tenir le 4 juin. Les autorités qui invoquent les risques liés au coronavirus dans un contexte de tension dans l'ex-colonie britannique. La RDC, en proie à une nouvelle épidémie d'Ebola, cette fois-ci c'est le nord-ouest du pays qui est touché. 4 personnes sont décédées et à l'autre bout du pays, dans le nord Kivu, l'épidémie est toujours en cours. 2280 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique depuis août 2018.
Vous êtes parent ? Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse et posez à votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information ? À qui est-elle destinée ? Provient-elle d'une source fiable ? Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Les États-Unis sont sous haute tension depuis une semaine et la mort de George Floyd, ce noir américain de 46 ans étouffé par un policier blanc de Minneapolis dans le Minnesota. Une mort qui a ravivé les tensions sociales dans tout le pays. Des émeutes ont en effet éclaté dans la plupart des grandes villes américaines, d'Atlanta à New York, de Los Angeles à Denver ou à Portland ou encore à Washington. Des scènes de déjà-vu qui rappellent les maux d'une Amérique où le racisme est toujours présent, un racisme dénoncé notamment par l'Église catholique des États-Unis, mais le contexte est différent en cette année 2020, nous rappelle Pape Ndiaye. Il est spécialiste des États-Unis et des questions raciales à l'EHESS.
Ce sont des scènes qu'on a déjà vues et en effet, elles rappellent par exemple les événements de Ferguson en 2014 suite à la mort du jeune Michael Brown tué par la police. Il y avait eu des émeutes importantes dans cette ville du Missouri et puis dans d'autres villes américaines qui rappellent tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Et puis plus loin dans le passé, les grandes émeutes des années 60, par exemple, étaient généralement causées à la suite d'une altercation, d'une violence commise par des policiers sur de jeunes Africains-Américains. Cette fois-ci, il y a deux différences quand même, c'est le Covid et Trump qui, en quelque sorte, aggrave la situation. Est-ce qu'il y a fragmentation ? Je n'en suis pas sûr. La société américaine de Minneapolis, par exemple, les manifestants, il y a des Africains-Américains, mais il y a aussi beaucoup d'Américains blancs qui protestent dans cette ville, qui a une tradition libérale très importante. La question, c'est plutôt celle de la réaction ou de l'absence de réaction du gouvernement fédéral.
Qu'est-ce que les Américains, et en particulier les Africains-Américains, attendent aujourd'hui de la police ? Est-ce qu'il faut une réforme profonde aux États-Unis de la police, du rapport avec les minorités ?
C'est un sujet très compliqué, puisque contrairement à beaucoup de pays européens, la police américaine est éclatée en départements qui sont sous l'autorité des municipalités. Et donc le gouvernement fédéral a relativement peu de moyens d'action. Obama, par exemple, il y a quelques années, avait invité des responsables de la police d'une vingtaine de villes à venir à Washington pour converser et puis pour envisager des réformes. Mais le gouvernement américain ne peut pas les forcer, entre guillemets, ces réformes. Il peut les encourager et il y a beaucoup à faire. Mais actuellement, ce n'est évidemment pas du tout ce qui est envisagé à Washington.
Au-delà des violences policières et donc de cette tragique mort de George Floyd, qu'est-ce qui manque, selon vous, aujourd'hui aux États-Unis pour assurer une meilleure représentativité de la communauté afro-américaine ?
Il y a des progrès, évidemment, qui ont été accomplis depuis les années 60. Il y a également beaucoup plus d'Africains-Américains dans les forces de police, mais la meilleure représentation, par exemple dans la police ou à d'autres niveaux, ne garantit pas forcément la justice et l'équité. Il y a des réformes profondes à faire dans le système de justice, mais aussi dans l'éducation, dans la santé également. Mais il faut pour cela une volonté forte du Congrès et du gouvernement américain. On est dans un moment très difficile pour les Africains-Américains, mais ça n'est pas évidemment politiquement un moment pendant lequel on pourrait imaginer et enregistrer des avancées significatives pour la situation des Noirs aux États-Unis.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, Pape Ndiaye, spécialiste des États-Unis et des questions raciales à l'EHESS. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée.